nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Il lui dit, non, j'ai pas rêvé, c'était trop vrai pour ça. Je sais que personne ne peut me croire, il faut que l'on retourne à cette cité. Elle lui dit, retourner en bas, moi je m'en sens tout à fait incapable. Et ils ont dû refermer les entrées. Il lui dit, en celle du château, parce que c'est dans un parc privé. Ce qui lui dit, mais comment retrouver ton chemin? Il lui dit, je me suis souvenu comment je suis arrivé jusque-là, j'ai fait un plan. Il lui dit, alors nous allons aller à la mairie de la ville voir si ce plan représente quelque chose. Le lendemain matin, ils vont à la mairie centrale de Lyon, place des Terreaux. Ils entrent à la colle. Vont vers l'hôtesse, qui est une jeune fille blonde en tailleur bleu. Elle leur demande, vous désirez? J'ai lui dit. Nous aimerions, c'est consulter les plans des sous-sols de la ville. Elle lui demande, vous êtes chercheur, architecte? Ce qui lui dit, non, nous sommes étudiants. Elle lui dit, bien, c'est au deuxième étage, porte droite. Merci, elles y vont. Près des escaliers de pierre, très larges. Au deuxième étage, ils suivent un couloir et regardent les noms sur les portes. Une porte est marquée sous-sol communal. Celui qui frappe, entrée. Ils entrent. C'est une grande pièce où tout est rangé sur une table blanche d'ordinateur, au mur des rayonnages de dossiers, un petit jeune homme blond. Le jeune homme est grand, mince, certain, visage juvénile, costume gris. Il leur demande « Vous désirez ?» Il s'approche de lui. Celui-ci lui dit « Nous aimerions savoir si le plan que nous avions correspond à quelque chose dans le sous-sol. » Je lui demande « Vous êtes ?» Elle lui dit « Nous sommes étudiants. » Il lui demande « Votre carte, s'il vous plaît. » Il lui donne leur carte. Il le met sur l'écran et regarde. Il dit « Vous n'êtes pas étudiant en architecture. » Elle lui dit « Non, mais nous faisons une thèse sur Lyon à travers les âges et comme le sous-sol se développe à différentes époques. » Il lui dit « Oui, je vois. » Et le jeune homme, elle lui dit « Fais la même chose que moi. Bien, montre-moi ce que vous voulez. » Ce qui lui montre le plan du sous-sol. Le jeune homme, qui est fonctionnaire, regarde bien le papier. Il y a le passage où ils sont entrés près de la place Satonnay. Il y a à peu près le périple, les descentes, les couloirs et le retour à la surface dans le jardin du château. Le couloir où il est tombé Sweetie, où ils se sont perdus et où William a eu la vision de la ville. Il a mis une croix. William se dit, en montrant la croix, c'est à partir d'ici qu'il faut voir s'il n'y a pas dans le coin des ruines d'une ville. Le jeune homme met en marche l'ordinateur. Il prend le sous-sol de la place Satonnay. Il regarde le papier. Il suit les galeries souterraines pour aller jusqu'au point où Sweetie a disparu. Là, il regarde et voit qu'il y a un signe, une croix. Il veut en savoir plus. Il appuie avec sa souris sur la croix. Elle marque sur l'écran « Secret ». Il a beau essayer, l'ordinateur ne veut rien dire. Il poursuit sa route des sous-sols et sur le plan, ça le mène au château. Il dit à William, il n'y a pas de cité souterraine. William lui dit, pourtant, je l'ai vu. Et je lui dis, comment? Vous savez qu'il est interdit de passer dans les sous-sols. William lui dit, c'était pour la thèse, n'avons rien fait de mal. Le jeune homme lui dit, n'y retournez pas, c'est dangereux. Il rend son plan. Tenez, je sais, mais il n'y a pas de ville. Vous avez dû rêver. Allez, redonnez-moi votre carte, s'il vous plaît. Il leur tend et les met sur l'ordinateur. Puis, rend les cartes à Sweetie William. Merci. Et il le quitte. Le jeune homme, une fois qu'ils sont partis, prend son téléphone, fait un numéro. Allô, monsieur l'ingénieur? J'ai eu une demande au sujet d'une zone interdite et secrète dans les sous-sols de Lyon. On a découvert une ville, ou plutôt les ruines d'une ville. Oui, j'ai gardé le plan et les coordonnées des jeunes. Thank you. ingénieur responsable des sous-sols de la mairie, un homme grand, mince, cheveux grisonnants, costume marine, et dans son bureau, une grande pièce meublée, meubles modernes en bois noir et vert. Il se dit que cette histoire est très sérieuse. Il se lève et sort de son bureau. Et va au bureau des plans où Sweety William se trouvait. Là, il regarde le plan qu'ils ont montré. Le plan de William a été recopié sur l'ordinateur. L'ingénieur en fait une copie et prend les coordonnées des deux jeunes gens. Puis, il sort du bureau pour aller au bureau du maire qui se trouve à l'étage au-dessus. Là, il tombe sur la secrétaire. J'aimerais voir le maire. C'est assez sérieux. Une grande rousse en tailleur bleu. Elle lui dit, c'est qu'il est très pris. Il lui dit, c'est urgent. Bien, je vais voir. Elle prend son téléphone. Allô, monsieur, c'est monsieur Dupérot qui désire vous voir. Bien. Elle raccroche et lui dit, vous pouvez y aller. Merci. Et il va au bureau du maire. Frappe à la porte. Entrez. Il entre. C'est une grande pièce meublée Louis XV. Le maire est un petit gros, à cheveux gris, costume gris. Il lui demande, qu'y a-t-il, monsieur Dupérot ? Dupérot s'approche et lui dit, il y a monsieur. C'est que des jeunes ont demandé des renseignements au sujet d'un secret du sous-sol qui ont découvert et ont visité des ruines d'une ville. Le maire lui dit, j'avais dit que c'était de condamner les sous-sols. C'est dangereux. Il y a toujours des jeunes s'abrutis qui s'y aventurent. C'était prévisible qu'ils trouvent un jour quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont ? Est-ce qu'ils ont parlé de quelque chose à d'autres personnes que celles de la mairie ? L'ingénieur lui dit, je ne sais pas, monsieur. Le maire lui dit, vous savez qui ils sont ? Leurs coordonnées ont été présentes. Bien, vous allez fermer toutes les entrées des sous-sols. L'ingénieur lui dit, et s'il reste des jeunes, ils ne pourront plus sortir, tant pis pour eux. Et comme ça, ils ne pourront plus parler. Vous avez coordonné des jeunes et l'endroit où ils sont allés ? Oui, monsieur. Oui, monsieur le maire. Voilà. Il lui tend les papiers, le maire les regarde, merci. Et fermez tout de suite l'entrée. Bien, monsieur le maire, et il le quitte. Le maire réfléchit et se dit que c'est assez grave. Et comme c'est assez grave, il décide d'en parler au préfet. et lui apporter les papiers. Le préfet au ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur au Premier ministre. Premier ministre à Marc qui se dit que c'est très sérieux tout ça. Secret défense. Il envoie les papiers et une lettre explicative au PDG du groupe Pontoise Gap à Lyon, Monsieur Dutourangy, qui lui, après avoir lu, l'envoie au groupe Franblanc à Paris. Il l'a envoyé à Judith Claire, parce qu'il a reçu l'ordre de donner tous les secrets à Judith Claire. Monsieur Dutour fait une lettre pour lui expliquer tout ça. Judith Claire, il a envoyé à Judith Claire parce qu'elle fait partie des sept soleils. Pas après avoir pris connaissance de l'envoi de Monsieur Dutour et de ses explications, le soir même, elle va avec les papiers voir le vieil homme dans sa maison qui se trouve au fond d'une cour d'un vieil immeuble minable d'une rue populaire. Sonne à la porte de la maison. La porte s'ouvre. C'est le domestique qui l'est surpris. C'est vous ? Elle lui dit. Je suis venu parce qu'il y a quelque chose de très important. Le domestique lui dit. Je l'espère parce que monsieur n'est pas dérangé. À l'improviste, entrez. Elle entre. Il ferme la porte. Il lui dit. Je vais prévenir monsieur. Et il la laisse en bas des escaliers. Il monte. Elle attend. Puis, elle le voit redescendre, venir à elle, et lui dit, « Monsieur veut bien vous recevoir, suivez-moi. » Il est au salon. Elle le suit. Il monte jusqu'au premier. Arrivé au premier, il suit un long couloir. Frappe à une porte. Entrez. Il la fait entrer. Il ferme la porte. Il est assis dans un fauteuil près de la cheminée, une couverture sur ses genoux. Il lui dit, j'ai quelque chose à me dire. Elle lui dit, oui, c'est important. Des jeunes à Lyon ont découvert la ville. Il fait, ah, venez vous asseoir. Il lui montre un fauteuil à côté de lui. Elle va s'y asseoir. Elle lui dit, j'ai reçu ça de Lyon. Il lui montre le papier et les lettres. Il lui dit, c'est très important et dangereux. Il lui demande, qu'est-ce que cette cité ? Il lui dit, c'est la cité de nos ancêtres. On construit bien avant les pyramides, la ville de Troie, Rome et Troie en France. C'était notre première cité, la cité centrale, celle qui devait donner le fluide vital. C'est dans cette cité qu'on l'a mise. Elle se trouve dans un temple en forme de main de Dieu. Le fluide y sort, il jaillit éternellement et déverse dans le monde le fluide vital qui est de l'ADN. Qui donne la vie. La cité est sacrée. Il ne faut pas que quelqu'un prenne l'ADN ou l'arrête. Lorsque les hommes ont été suffisamment nombreux sur Terre, nous avons été obligés d'enfuir la cité et elle a été construite par-dessus la ville de Lug, puis Lugdunum et Lyon. Nous avons tout fait pour cacher la cité. C'est vital. Si les humains prennent le vide, le monde basculera et ils auront le pouvoir de la création et de tout bouleverser. Il ne le faut pas. Il n'y a que nous qui devons avoir le pouvoir. Nous sommes des êtres supérieurs de la race des hommes bleus venus d'ailleurs. C'est de nous que sont sortis les grands hommes. Nous sommes là pour aider l'humanité, pour la guider, tout en restant secret. C'est nous, l'intelligence. C'est nous, la vie. L'ADN nous appartient et toutes les civilisations qui ont dominé par leur savoir le monde ont été créées par nous. Mais pour continuer notre travail, il nous faut l'élu. Voilà presque 20 ans que nous n'en avons plus. Je dis tout le monde, que faut-il faire pour les jeunes? Et le passage a été bouché. Il ne risque plus rien. Pour ce qui est de ces jeunes, il faut les empêcher qu'ils disent quoi que ce soit de ce qu'ils ont vu. Et lui demande, il faut les éliminer? Il lui dit, s'il n'y a pas d'autre moyen, mais voyez par vous-même, je crois que ces jeunes gens font partie de la famille. Bon, voyez. Bien, monsieur, je vais vous laisser, il est tard. Il lui dit, bonne nuit, bonne nuit. Et sort de la pièce. William et Sweetie marchent dans les rues de Lyon. Il lui dit, je t'assure que je n'ai pas rêvé. Et lui dit, des ruines pareilles, on en aurait parlé, elles auraient été découvertes. Il lui dit, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je sais que je n'ai pas rêvé. Elle lui dit, comment peux-tu en être sûr? Tu étais dans le noir, et puis moi, je t'ai cherché peu de temps. Et d'après ce que tu as fait, il t'aurait fallu au moins 2 heures. Il lui dit, tu ne peux pas savoir combien de temps j'ai disparu, puisque tu as été assommé. Et peut-être, mais je n'ai peut-être pas resté longtemps. Il lui dit, et si on y retournait? Il lui dit, ils ont dû fermer les entrées. Ils ont peut-être fait une faute en allant à la mairie demander des renseignements. Elle lui dit, tant pis, maintenant c'est fait. Il lui dit, comment personne ne pouvait le savoir? Maintenant, ils savent. Et lui dit, vous savez peut-être, on ne saura peut-être jamais. Et ils continuent leur marche. La nuit, Williams fait toujours des cauchemars. Il retourne à la cité et la main géante. Ça le réveille en sueur. Une nuit, il dort dans son lit. La porte de sa chambre s'ouvre. Une ombre entre. Elle s'approche du lit. Se penche. Découvre délicatement lui relève la manche de son pyjama et lui fait une piqûre au bras. William a réagi, fait la grimace dans son sommeil. Puis, en lui redescend sa manche, le recouvre. L'on sort de la chambre. descends les escaliers. Au rez-de-chaussée, on sort par la fenêtre. On suit le jardin, saute le mur et on entre dans une voiture noire. Le lendemain matin, Sweetie sort de chez sa mère. Elle habite dans une petite rue. Tout à coup, une voiture va vers elle, une voiture noire. Un homme sortit de la voiture. Il la tire par la manche. Il veut la faire entrer dans la voiture. Elle se défend. Elle demande à l'homme, qu'est-ce que vous voulez? L'homme ne dit rien. Comme il voit qu'il n'arrive pas à la mettre dans la voiture, il sort de sa poche un manche et lui en donne un coup sur la tête. Oh! Elle tombe évanouie. Il la pousse dans la voiture. Bien entendu, tout ça, ça a été fait très vite. Pour que Sweetie ait été mise dans la voiture, il rentre lui aussi et met la voiture en route. Et la voiture file. File, file. La voiture s'est arrêtée en rase campagne. L'homme, dans la voiture, sort de sa poche une boîte en métal. Il ouvre et en sort une seringue. Il la pique au bras. Puis, il ouvre la portière, sort Sweetie et la dépose sur le talus. Puis, la voiture s'éloigne. Sweetie se réveille. Quelques minutes plus tard, elle se demande pourquoi elle est à terre. Elle se lève et se dit qu'elle a dû tomber. Elle regarde où elle est et voit qu'elle est près de son université du Rhône. Elle y va. William, comme chaque matin, se lève. Il lui semble avoir bien dormi. Ils ont oublié tous les deux leur aventure dans le sous-sol. Plus personne n'a entendu parler. Mais de temps en temps, William rêve qu'il est dans les ruines. Dit à Sweetie, alors qu'ils sont dans un café à prendre du jus de fruits, en ce moment, je fais des rêves étranges. Je suis dans une cité en ruine, à l'antique, et je vois une main géante. Elle lui dit, Tu as dû voir ça dans un film. Oui, peut-être, mais c'est bizarre comme ça paraît. Vrai. Puis il lui demande, viens faire un tour dans les sous-sols. Elle lui dit, on ne peut plus, ils ont trop fermé à cause des éboulissements. Dommage. Il lui dit, oui, dommage. William fait la connaissance d'un jeune homme qui fait des bandes dessinées. Un jeune homme de 25 ans, grand, maigre, cheveux longs, barbe noire. Il est habillé d'un jean et d'un pull noir. Habite un vieil immeuble des pentes. Vieil immeuble sale et délabré, au dernier étage de son immeuble. Une pièce principale, genre salon et atelier de dessin. Il y a du bric-à-brac dans cette pièce. Ils ont passé la soirée ensemble à discuter en buvant de la bière et en mangeant des yaourts. William, qui a travailler pour se faire un peu d'argent chez un grossiste en fromage et laitage. Le jeune homme, qui s'appelle Luc, lui dit « En ce moment, j'ai plus d'idées d'histoire. » William lui dit « Tu n'as pas de scénariste ?»« Non, et je suis incapable, c'est de travailler en équipe. » Il réfléchit et lui dit « Moi, j'ai peut-être une idée. Si tu veux. » Luc lui dit, dis-la tout de même. Alors William lui parle de ses rêves, de cette cité étrange dans le sous-sol de Lyon, de la main. Et au fur et à mesure qu'il parle, il croit inventer, mais il dit tout ce qui lui est arrivé. Après, il demande, qu'est-ce que tu en penses? Luc lui dit, c'est très intéressant. Et ça ferait une bonne BD d'aventure. Bien, je suis prêt à la faire. Tu me donnes ton adresse, je vais la noter sur mon ordinateur. Et c'est ce qu'ils font. Et deux jours plus tard, Luc a fait un scénario, préparé son plan pour dessiner la BD. Son héros ressemblera à Williams. William est fier et dit à Sweetie, je vais être le héros d'une BD. Elle lui dit, et moi? Elle lui dit, tu n'as pas à être jalouse. Toi, tu as eu plusieurs aventures dans l'émission L'écran radiophonique. Elle lui dit, mais tu y étais? Il lui dit, oh, si peu, une fois, à peine. Six mois plus tard, le livre est publié. Il a un certain succès chez les enfants. Les adultes le boudent parce qu'il ne raconte qu'une histoire d'aventure et non les horreurs d'une guerre ou une histoire prosélytique gauche multiculture. William a reçu un chèque pour l'aide au scénario. William, en feuilletant l'album, retrouve son aventure. pleine de rebondissements. Il en est fier. Mais il y a quelque chose qui lui donne de l'impression, de l'angoisse. Il ne sait pas pourquoi. Le livre a été entre les mains du fils du maire 10 ans. Le maire l'a lu et s'est rappelé l'histoire et envoie le livre à Paris au ministre de l'Intérieur qui le donne au Premier ministre, le Premier ministre au président de la République et le président de la République au président du groupe Jeunes Tout Pontois. Le groupe Pontois chez Judith qui le donne au vieil homme. Le vieil homme le lit et dit « Nous aurions peut-être dû éliminer ces deux-là. » Elle lui dit « Nous pouvons le faire. » Il lui dit « Il est trop tard. » Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, plus enseigne, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morvetti.